RRB, première radio d'information.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, InfoSoir, c'est avec vous, Michael Juneski.
À la une, le début de la visite de François-Noël Buffet sur le territoire. Le ministre des Outre-mer multiplie les entretiens depuis ce matin avec les élus calédoniens. La classe politique attend beaucoup des rencontres avec François-Noël Buffet. Vous entendrez notamment les réactions des présidents du gouvernement, du Congrès, de la province sud et de la province des îles dans ce journal. Les réactions après l'annonce de la mise en sommeil du centre minier Célène de Thiau. Le gouvernement déplore cette fermeture. La province sud appelle les auteurs des exactions et des violences à prendre conscience des conséquences de leurs actions. À l'île des Pins, une partie de la population ose prendre la parole, exaspérée par les exactions et les violences depuis le 13 mai et souhaitant voir revenir l'activité touristique dont dépendaient les Cougnets. L'ouverture du salon Sotech So Good pour réunir les acteurs de la French Tech de Nouvelle-Calédonie, du Pacifique et des Outre-mer à Nouméa durant deux jours. Quand les chefs de Pacific Food Lab concoctent des menus pour les scolaires, en hors d'œuvre, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis le trophée des jeunes marins du Cercle Nautique Calédonien. Pendant une semaine, les finalistes se retrouvent à Nouméa pour des régates et des échanges autour de la passion de la voile. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tous savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. C'est donc l'information principale de ce journal. François-Noël Buffet a débuté sa visite en Nouvelle-Calédonie. Le ministre chargé des Outre-mer va passer 4 jours sur le territoire avec un programme dense fait de rencontres, d'entretiens et de visites de terrain. Pour son premier déplacement en tant que ministre chargé des Outre-mer, il a reçu ce matin les honneurs militaires lors d'une cérémonie place Birakem, au cours de laquelle il a déposé une gerbe au monument aux morts. Ont participé à ce dépôt de gerbe le président du gouvernement, Louis Mapou, la présidente du Congrès, Velma Falaeo, la présidente de la province sud, Sonia Bakès, le député Nicolas Metzdorf et Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa. François-Noël Buffet arrive avec la volonté d'écouter.
Je suis dans un état d'esprit de travail, d'écoute. Je suis à la fois serein, mais en même temps très mobilisé pour essayer d'apporter ce que je pourrais apporter à la Nouvelle-Calédonie et à tous les Calédoniens. Donc j'arrive à la fois confiant et à la fois très concentré sur la mission qui est la mienne. Je suis déjà venu 2 fois lorsque j'ai présidé la commission des lois du Sénat, donc je ne suis pas en terre inconnue, si je puis dire, mais comme ministre, c'est la première fois et j'ai choisi de venir ici parce qu'il y a un territoire à reconstruire, un dialogue à renouer. Et donc, je viens dans cet esprit-là, vraiment.
Après avoir pris le temps de saluer les forces armées et d'échanger avec les élus et les représentants des institutions, François-Noël Buffet a tenu à rappeler que l'État reste mobilisé dans cette période difficile en Nouvelle-Calédonie. Des annonces seront faites, promet le ministre.
Oui, bien sûr qu'il y aura des annonces qui seront faites au fur et à mesure des réunions. Ma feuille de route est simple, il faut dans un premier temps expliquer pourquoi on a remporté les élections provinciales. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le constat de la situation sur le plan, j'allais presque dire, matériel, mais pas seulement, également moral, si je puis dire. Et puis, c'est les premières approches de reconstruction, de mise en place de procédures pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans sa reconstruction. Donc, c'est un aspect très concret, en réalité. Je suis là pour essayer d'être efficace et d'être très concret dans l'intérêt des Calédoniens.
François-Noël Buffet a ensuite eu toute une série de rencontres avec les responsables des institutions, en commençant par un déplacement au siège du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
Le ministre des Outre-mer a été reçu par le président du gouvernement, Louis Mapou, avant de s'entretenir avec l'ensemble de l'exécutif. Louis Mapou qui déclare à l'issue de ces entretiens qu'il y a de la part de l'État une volonté d'accompagner la Nouvelle-Calédonie. Avec François-Noël Buffet, ils ont échangé sur la situation du territoire et sur les défis et les enjeux auxquels le gouvernement est confronté. L'objectif, c'est de savoir comment envisager sur des bases sereines la fin de l'année 2024 et l'année 2025. Et selon Louis Mapou, ils ont convenu d'une méthode et d'un état d'esprit.
L'idée sur laquelle nous sommes entendus, c'est qu'on fasse preuve à la fois de grande souplesse. L'approche des sujets pour la fin de l'année 2024, qu'on soit très précis dans le fléchage des besoins et d'une certaine manière qu'on puisse lisser sur l'année 2025 les modalités de réponse que nous avons, parce que on a à la fois un gouvernement central et nous des contraintes qu'il faut bien prendre en compte. Donc c'est surtout cet échange-là que nous avons fait avec lui sur la méthode. Sur l'autre partie, nous lui avons présenté les grands besoins sur lesquels nous avons déjà échangé beaucoup avec la mission reconstruction qui était en permanence en contact avec nous. Donc on lui a présenté quels sont les efforts que nous comptons faire de notre côté et quels sont les besoins que nous sollicitons au point de l'État pour que ces besoins soient pris en charge d'une certaine manière, dans le cadre de la loi des finances qui est en cours d'instruction en ce moment à l'Assemblée nationale.
Et pour le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la priorité, c'est clairement la reconstruction de l'économie.
Visiblement, il y a de la part du gouvernement une volonté d'accompagner la Nouvelle-Calédonie pour qu'on sorte de cette crise. C'est la grande priorité des priorités. Donc sur ça, on peut considérer qu'on est satisfait. La question des discussions, bien sûr, il faudra l'ouvrir, mais on est surtout concentré sur la situation actuelle pour qu'à la mi-2025, on puisse voir un petit peu mieux sur quelle base la Nouvelle-Calédonie de demain va se reconstruire, hein, parce que c'est bien le terme qu'il faut utiliser. Il nous a indiqué le calendrier de la loi organique qui a été présentée au Sénat par le groupe socialiste et qui devra être examinée au mois de novembre à l'Assemblée nationale pour que les élections provinciales qui sont prévues normalement au plus tard, le 15 décembre, soient reportées compte tenu du contexte que je viens d'évoquer.
Pas d'annonce particulière de la part de Louis Mapou qui en laisse la primeur au ministre. Il déclare seulement que la sauvegarde du PS2R est concernée par la loi de finances que le Parlement commence à examiner. Et il précise qu'il a fait part au ministre du montant attendu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a également sollicité l'expertise de l'État sur plusieurs sujets, notamment sur les retraites. Et François-Noël Buffet lui a annoncé la mise en place d'une cellule pluridisciplinaire pour faire face aux urgences.
À leur niveau, ils mettent en place une cellule pluridisciplinaire. On sort du caractère très comptable un petit peu que nous avions, mais qui s'explique par la nécessité de faire face à des urgences. Donc là, on sort un petit peu de cette problématique-là pour s'engager dans une nouvelle approche des problèmes. Donc c'est cette cellule-là qui travaillera, mais le dossier est bien entre les mains du Premier ministre.
Louis Mapou qui répète que l'État a pris l'engagement de soutenir la Nouvelle-Calédonie, mais sans annoncer le de montant au stade actuel de cette visite.
Et après le gouvernement, c'est au Congrès que s'est rendu le ministre chargé des Outre-mer. Il a été accueilli par la présidente Velma Falaeo qui affirme, à l'issue de cet entretien, que l'État sera aux côtés de la Nouvelle-Calédonie.
Le ministre des Outre-mer a choisi quand même la Nouvelle-Calédonie comme première destination. C'est un message fort pour chacun d'entre nous. Nous avons pu échanger sur différents sujets, le plan quinquennal, le plan S2R, le report des élections provinciales. Je dirais qu'il y a une volonté d'avancer ensemble. L'État sera aux côtés de la Nouvelle-Calédonie et c'est la chose positive que je retiens aujourd'hui.
Pas de chiffres annoncés là non plus, mais Velma Falaeo estime que le ministre a conscience des besoins de la Nouvelle-Calédonie et elle attend un engagement fort de la part de l'État.
Nous avons échangé sur les réformes nécessaires, mais avant que les réformes puissent être entamées et prennent effet, il faut effectivement quand même une aide de l'État. Le ministre de l'Outre-mer a bien conscience. Je rappelle qu'il y avait la mission interinstitutionnelle et transpartisane qui avait effectué un déplacement dernièrement sur Paris. Le ministre a bien conscience de tout cela. Encore une fois, il y a simplement la volonté que les uns et les autres puissent avancer ensemble et que, ici, politiquement, les élus puissent se mettre d'accord aussi sur les réformes à engager.
Et de son côté, la présidente du Congrès s'est engagée à réunir les chefs de groupe pour essayer de renouer les fils du dialogue et d'avancer sur l'avenir institutionnel. Direction ensuite l'hôtel de la province sud pour François-Noël Buffet qui s'est entretenu avec Sonia Baquès, Elisabeth Noir.
Sonia Baquès rassurée à l'issue de cet entretien. S'il fait les choses qu'il nous a dites, c'est très bien, déclare la présidente de la province sud qui explique qu'avec le ministre des Outre-mer, elle a parlé politique. Mais d'abord, économie.
Sur le plan économique, j'ai souligné l'urgence d'accompagner globalement les entreprises, puisqu'on arrive au bout aujourd'hui des 3 mois qui ont permis aux chefs d'entreprise, ou d'ailleurs aux Calédoniens et aux salariés en général, de repousser leurs échéances bancaires. Aujourd'hui, on arrive au bout de cette échéance-là, et les gens n'ont pas de perspective. Donc on a besoin d'avoir rapidement des perspectives, pour ça, d'avoir de l'argent en investissement, pour remettre les gens au travail, et que les collectivités soient accompagnées pour pouvoir faire cet investissement et accompagner les entreprises.
Le ministre des Outre-mer et la présidente de la province sud ont ensuite parlé politique. Discussion sur l'avenir, report des provinciales, corps électoral, et ils ont évoqué un rétroplanning.
La loi sur le report des élections risque de passer, donc ça veut dire qu'au plus tard, elles seront au 30 novembre 2025. Pour faire des élections, il faut modifier le corps électoral qui ne peut pas rester en l'état, c'est le Conseil d'État qui l'a dit, donc ça veut dire qu'il faut passer une réforme au plus tard au mois de juillet, et pour passer une réforme au mois de juillet, il faut qu'il y ait un accord avant mars. Donc ça s'impose à nous juridiquement. Ensuite, à l'intérieur de ce rétro-planning et ce qu'on fait d'ici mars, c'est pas à moi de l'établir, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir une visite du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée en novembre. Et je pense, d'une part en temps masqué et d'autre part après cette période-là, nécessité absolue de remettre tout le monde autour de la table, mais avec la nécessité aussi de garantie de bonne foi que j'ai évoquée, puisqu'on a bien vu que les indépendantistes, pendant 2 ans et demi, ont fait marcher le gouvernement en venant, ne venant pas, en étant un coup blanc, un coup noir, en soufflant le chaud et le froid. Je crois que maintenant, il faut s'assurer que tout le monde est dans l'optique de trouver une solution et pas dans l'optique d'essayer de gagner du temps pour surtout ne pas déjeuner le corps électoral.
Un calendrier serré attend donc les élus calédoniens. Le ministre avait ensuite rendez-vous au commissariat avec le président de la province des îles, Jacques Lallier, qui lui a parlé de sa province.
J'ai pu poser les problématiques qui sont originales pour la province des îles, et notamment sur les effets induits de la crise, qui n'est pas visible à l'ONU, mais qui a des effets induits sur l'économie locale. On le ressent bien, puisque tout le développement économique, notamment sur le tourisme et sur les autres secteurs, est porté par la société qui appartient à la province. Donc aujourd'hui, je dis qu'il faut qu'on commence à changer de fusil d'épaule pour pouvoir changer le cours des choses par rapport à ces situations de crise. Donc j'ai bien développé les besoins de mettre en place des leviers qui mobilise, qui bouge les lignes dans le cadre de la refondation prochaine, pas concerner Nouméa pour seulement Nouméa. Il faut qu'on s'intéresse à tout ce qui est plan d'aménagement dans les autres sens.
Jacques Lallier a présenté à François-Noël Buffet ses projets d'aménagement des îles avec un aéroport international et une zone franche. Il évalue à 4 milliards les pertes subies par la province des îles en raison des émeutes, sans compter l'augmentation du chômage et l'augmentation des aides sociales en raison du retour des populations dans les loyautés.
François-Noël Buffet a ensuite poursuivi cet après-midi ses entretiens en rencontrant les maires de Nouvelle-Calédonie, une réunion à laquelle participaient les présidents des deux associations de maires, Pascal Vittori et Florentin Dédane, mais aussi le maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux, et le maire de Païta, Marilyn D'Arcangelos, et Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa qui représentait Sonia Lagarde, et Gérard Piollet qui représentait le maire d'Odimbéa, Yoann Le Courrieux. Une rencontre dont nous parlerons demain en compagnie de Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires. Il sera notre invité du matin, donc demain à 7h30. J'ajoute qu'en début de journée, le ministre chargé des Outre-mer s'était rendu au Sénat coutumier où il s'était entretenu avec les membres de l'institution. Demain, jeudi, François-Noël Buffet assistera à l'ouverture de la conférence dédiée au PS2R au Centre culturel Tchibaou avant de s'envoler pour la province Nord où il s'entretiendra avec Paul Niaoutine et visitera le RSMA. De retour à Nouméa, il visitera à Ducos, l'entreprise Soprotec qui a été sinistrée pendant les émeutes. Il clôturera ensuite l'événement Outre-mer French Tech au Château Royal avant de dîner avec les représentants du monde économique. Notez déjà que vendredi, le ministre chargé des Outre-mer sera notre invité du matin à 7h30. François-Noël Buffet quittera la Nouvelle-Calédonie samedi soir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, qu'attendez-vous surtout de la visite de François-Noël Buffet, le nouveau ministre des Outre-mer? Si vous attendez d'abord des réponses dans le domaine économique, vous tapez 1. Si vous attendez d'abord des réponses dans le domaine politique, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estiment que la SLN a eu raison de mettre en sommeil son centre minier de Thiau. Ils ne sont que 3% à penser qu'elle a eu tort. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 17h passé de 58 minutes. On va marquer une courte page de publicité. La situation à Thiau, justement, avec le gouvernement et la province sud qui déplorent la fermeture du centre minier. On en parle après la pub.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout.
Avec Bonus Répare, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est tout bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Info Soir, Michael Juneski.
Les réactions sont nombreuses après l'annonce de la mise en sommeil du centre minier de Thiau, notamment aujourd'hui la province sud qui déplore cette fermeture, mais qui réaffirme que la reconstruction ne pourra se faire qu'avec l'arrêt des exactions, Léo Fichot.
Par voie de communiqué, la province sud indique avoir, je cite, « appris avec tristesse la fermeture des trois sites miniers par la société Le Nickel à Thiau, berceau de l'industrie du nickel. Cette mise en sommeil contrainte par la série de violences et de dégradations commises depuis le 13 mai ainsi que les blocages à répétition empêchent le maintien d'une activité durable sur la commune d'Othio, dont une grande partie de la population vit de l'exploitation du minerai. Et ce communiqué de poursuivre, la province sud tient à exprimer sa solidarité avec tous les habitants victimes de ces violences et de leurs conséquences. La province sud formule le vœu que l'activité puisse prochainement reprendre et appelle les auteurs de ces récentes exactions à prendre conscience que leurs actions plongent la commune d'Othio dans une situation préoccupante et avec elle, forcément, la société Le Nickel, génératrice de plusieurs milliers d'emplois dans la difficulté. Avant d'ajouter, la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, espérée par tous, ne pourra se faire sans un retour au calme immédiat et sans l'arrêt des pressions et des attaques contre notre économie et ses acteurs. Fin de citation.
Et puis une autre réaction aujourd'hui, celle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement, justement, oui, de la Nouvelle-Calédonie qui déplore profondément la fermeture des mines de Thiau. Dans un communiqué, il estime que cette décision représente un coup dur pour la commune et l'ensemble de ses habitants. Avec 350 emplois supprimés, dont 230 emplois directs et 120 indirects. Ce sont des centaines de familles qui se trouvent durement impactées, indique le gouvernement, qui tient à exprimer sa solidarité envers les familles touchées par cette fermeture et qui salue l'importance historique et économique de la mine de Thiau. Ce communiqué d'ajouter, le gouvernement demande à la SLN ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes de travailler de manière concertée et responsable pour explorer toutes les possibilités de reprise des activités. Il réitère enfin son engagement à soutenir toute initiative visant à redonner espoir à la commune d'Othio et à revitaliser l'activité minière dans le respect des équilibres sociaux, économiques et environnementaux. Fin de citation.
En bref, le SMTI indique que les lignes du rail entre Nouméa et Thiau vont reprendre du service dès vendredi. La route de Thiau est en effet de nouveau praticable pour les bus. Seule la ligne Nouméa-Yaté-Nouméa reste suspendue en raison de la traversée de Saint-Louis. À l'île des Pins, les habitants exprimaient leur ras-le-bol ce matin. Depuis le 13 mai, la population cognée a connu de nombreux faits de violence, la plupart du temps perpétrés par des jeunes. Et c'est pour espérer trouver des solutions que l'Alliance pour la mobilisation et l'investissement a organisé à 9h une marche partant du marché communal de Vao. Le président de l'Alliance, Steve Kuchawa, se dit satisfait de cette marche.
On a eu des bons retours. Il y en a des personnes qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là, mais ils nous ont soutenus dans notre marche. On était au moins une cinquantaine à faire cette marche. Il y avait beaucoup plus de parents avec des enfants qui sont venus nous accompagner dans cette marche. Déjà, c'est positif parce qu'ils nous ont entendu notre message. On a des banderoles qui ont été enlevées déjà devant la mairie. Ça a été enlevé hier. Il y a une petite amélioration, on va dire ça comme ça, mais tout doucement, ça y est, les gens viennent prendre conscience parce qu'on a dit un peu la situation de l'île des Pins par rapport à la situation économique, la situation médicale que nous, l'île des Pins, nous vivons aujourd'hui avec le manque de transport. Les gens prennent conscience qu'on est dans le rouge.
L'association demande désormais une table ronde afin de discuter de l'avenir de l'île des Pins avec la mairie, les acteurs économiques et touristiques afin que le tourisme redémarre. En bref, un accident de la route cet après-midi à Bouraille. Accident survenu au niveau de l'Ossef à la sortie nord de la commune. Le chauffeur d'un camion nacelle s'est endormi au volant. Le véhicule s'est couché au milieu de la chaussée et a pris feu. Le chauffeur a été légèrement blessé et transporté au centre médico-social de Bouraille par les pompiers. Les pompiers et les gendarmes qui étaient toujours sur place cet après-midi. La circulation a été un temps complètement bloquée avant qu'une circulation alternée ne soit mise en place le temps que la dépanneuse arrive pour retirer le camion de la chaussée. Le domaine de Deva a réouvert aujourd'hui. Il était fermé suite à l'alerte rouge risque feu de forêt sur la commune de Bouraille. La fermeture du parc de Deva est prévue par l'arrêté feu pris par la commune avec le plan hors sec de la sécurité civile lorsque l'alerte est rouge. Pour savoir donc, je vous le rappelle, si le parc est ouvert ou fermé, il faut prendre en compte le bulletin météo du matin.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraï, c'est le 99.
Le gouvernement tenait sa réunion hebdomadaire ce mercredi et il a notamment examiné un projet de loi du pays relatif à l'insertion des travailleurs en situation de handicap par le travail intérimaire, Léo Fichot.
En 2020, plus de 8149 adultes sont reconnus en situation de handicap par la commission de reconnaissance d'handicap, soit 3% de la population des plus de 20 ans. Une entreprise employant plus de 20 salariés est soumise à l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap et assimilés. Le taux d'emploi obligatoire est fixé à 2,5% de l'effectif total de l'entreprise. Néanmoins, un employeur peut s'acquitter partiellement de cette obligation en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des structures d'emploi adaptées ou des centres d'aide pour le travail. Il a également la possibilité de verser au fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ainsi, 49% des employeurs remplissent leur obligation uniquement par le paiement d'une contribution financière annuelle. 12% le font à la fois par le paiement de la contribution financière annuelle, mais aussi par l'emploi de travailleurs. Et seulement 30% d'entre eux la remplissent uniquement par l'emploi de travailleurs en situation de handicap. Des chiffres qui soulignent une difficulté d'insertion professionnelle majeure pour les personnes en situation de handicap. Sous l'impulsion de professionnels spécialisés dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et soucieux de trouver des solutions innovantes, une nouvelle voie d'accès à l'emploi s'ouvre, le travail intérimaire. Il offre une double opportunité. Tout d'abord, des missions d'intérim permettant de donner aux travailleurs en situation de handicap une vision concrète du poste, de son environnement de travail, mais aussi des adaptations professionnelles nécessaires. Ensuite, ces missions d'intérim permettent également à l'entreprise d'appréhender la personne dans sa globalité et d'apprécier ses aptitudes, ses compétences professionnelles et ses talents. Ces priorités sont au cœur de ce texte visant à inciter les employeurs calédoniens à recruter davantage de travailleurs en situation de handicap par le travail intérimaire.
Parmi les autres décisions du jour, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a notamment admis la direction diocésaine de l'enseignement catholique, la DEC, au bénéfice de l'allocation de chômage partiel spécifique liée aux exactions débutées en mai 2024 en faveur de 441 salariés du 1er août au 31 octobre. Au chapitre économique, c'était ce matin l'ouverture du rendez-vous So Tech So Good au Château Royal à Nouméa, événement dédié à la French Tech des Outre-mer et du Pacifique. Durant deux jours, les acteurs locaux sont réunis aux côtés d'invités venus d'autres territoires ultramarins et du Pacifique. L'objectif est de réunir et de fédérer les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique et de valoriser les start-up. De nombreux participants étaient présents dès l'ouverture de ce rendez-vous aujourd'hui.
C'est par curiosité, oui. Sur les projets, les opportunités qu'il peut avoir. Il y a quand même des expériences à prendre.
Gérant et fondateur de Assistance Connectée SARL. C'est important de réseauter puisqu'on a les mêmes problématiques insulaires. En se mettant ensemble, en s'associant, tous les Outre-mer français notamment, on peut étendre notre marché plus facilement.
Le réseautage, et puis c'est peut-être externaliser nos offres. On est souvent, ici c'est un peu de l'entre-soi entre nous les entrepreneurs. On se contenait assez et puis à un moment donné, on est bloqué au niveau des idées et tout, on a besoin d'échanger un peu et puis peut-être choper deux ou trois opportunités aussi qui se présentent à nous là, durant la journée.
Étant lauréat de la French Tech en Calédonie, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Côté budget, financement, il y a de quoi. Et déjà, il y a d'autres écosystèmes, les écosystèmes voisines, et il y a de l'expérience. Il y a un autre niveau là, on passe à un autre niveau.
Les problématiques exposées sont les mêmes pour la Calédonie que pour la majorité des territoires ultramarins. Guillaume Terrien est le vice-président de la French Tech NC et fondateur de la start-up Neotech.
On attend beaucoup aussi les thématiques d'export, de mise en relation avec les Outre-mer, avec les bassins régionaux, etc., qui sont des issues économiques pour la Nouvelle-Calédonie et pour toutes nos start-up. Le but de So Tech So Good et des Outre-mer French Tech DS2, c'est vraiment ça, c'est de se dire on se met en réseau, on réfléchit ensemble, on trouve des solutions ensemble parce qu'on est sur des territoires similaires et on exporte nos solutions, on dynamise notre économie. C'est d'échanger un peu les bonnes pratiques autour de l'innovation et du développement des start-up, que ce soit dans le bassin régional ou que ce soit dans les Outre-mer qui sont des marchés naturels pour les start-up calédoniennes. Donc tout l'enjeu de l'événement va se trouver autour de ça et de comment trouver les clés de ces marchés et du développement économique des start-up calédoniennes.
Le rendez-vous de la French Tech qui se poursuit donc demain au Château Royal à Nouméa. L'événement So Tech So Good Outre-mer French Tech Days 2 à l'initiative de la French Tech Nouvelle-Calédonie et en présence des communautés French Tech des Outre-mer et du Pacifique. Quel rôle peuvent jouer ces écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique? Quelle coopération peut-on imaginer dans dans la région Pacifique et comment ces start-up peuvent-elles participer à l'avenir des territoires insulaires et ultramarins. Ce sera le thème demain midi des Jeudis de l'économie sur Radio Rythme Bleu. Nous serons en compagnie d'Atem Belagi, le président de la French Tech NC, de Stéphane Barbomère, le directeur des contenus de Viva Technologie, de Florent Montrouge, le président de la French Tech La Réunion, et de Grégory Tapéro, entrepreneur calédonien, gérant d'une start-up. Rendez-vous demain à partir de midi pour ce Jeudi de l'économie consacré à la French Tech. Pacific Food Lab réunissait aujourd'hui 5 cuisiniers des cantines scolaires du Grand Nouméa. L'objectif, offrir des solutions innovantes et durables pour l'alimentation des jeunes élèves, Léo Fichou.
Et oui, ce matin, les chefs cuisiniers des collèges d'Ondémia, Apaïta, d'Apogoti, de Normandie, de Coutio et de Magenta étaient présents dans la cuisine du Pacific Food Lab. Une matinée de préparation de plusieurs plats et d'échanges sur ces recettes. C'est le principe des cafés des chefs. Laurence Upigit est présidente de Pacific Food Lab, mais elle est aussi chef de cuisine au collège d'Ondémia de Païta.
C'est surtout miser sur l'échange de pratiques, de bonnes pratiques, et le fait d'avoir plusieurs chefs, parce qu'on travaille tous différemment. Il y a énormément de recettes, on peut avoir des idées, des astuces et tout. Tous les jours, on apprend. Il y a toujours des choses à grappouiller partout, à droite, à gauche, et c'est ça qui est génial. Tout ça, c'est pour les enfants, parce que ça, c'est notre quotidien. Tous les jours, on a 500 à 600 élèves par jour. Donc il faut qu'on soit capable d'innover avec les nouveaux produits qu'on a, inclure aussi beaucoup les produits locaux.
Un rendez-vous, comme je le disais, réservé aux chefs des restaurants scolaires, mais Pierre-Jean Belondrade a tenu à être présent ce matin. Il est le principal du collège d'Ondémia à Païta et a rappelé l'importance d'un bon repas pour les élèves.
Oui, parce que depuis maintenant 2 ans, je travaille avec Pacific Food Lab et c'est une démarche qui est fondamentale parce que elle permet d'abord de valoriser les produits locaux, de réduire les coûts de production et de faire en sorte que nos élèves mangent équilibré. Et on sait très bien que des élèves qui mangent correctement sont des élèves qui vont mieux apprendre et qui seront plus disponibles pour les apprentissages. Ça, c'est fondamental pour un chef d'établissement.
Charles Huyot, lui, est manager du Pacific Food Lab. Il souhaite donner une place importante aux cantines dans l'économie locale.
Différents produits à mettre en avant pour les bons plans, parce que le budget des cantines, bah, comme tout le monde, il est aussi revu à la baisse cette année. Comment on fait pour que les cantines tiennent leur place dans l'économie locale? Et il y a un vrai pouvoir d'action, un vrai levier d'action au niveau de la cantine. La cantine du collège de Ondémia, elle fait 500 repas par jour, par exemple. Donc ils ont eu un rôle à tenir, ils ont une place qu'ils peuvent prendre. Comment on fait pour les soutenir dans cette démarche? Et pour les faire se rencontrer, pour que. Et c'est en plus nos enfants qui en profitent.
Et oui, pour le plus grand plaisir des enfants, les recettes travaillées aujourd'hui au Pacific Food Lab seront proposées d'ici la fin de l'année dans les cantines des collèges du Grand Nouméa.
Il est 18h, passé de 12 minutes, une page de publicité avant de parler sport et le trophée des jeunes marins et qui se poursuit à Nouméa cette semaine.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal et c'est du sport, Michael Juneski.
Et un mot de tennis tout d'abord avec Maxime Chazal qui est en Bretagne pour participer au Challenger de Saint-Brieuc. Malheureusement, dans le tournoi en simple, c'est déjà terminé pour le Calédonien. Il s'est incliné en 2-7 lors du premier tour hier soir. Le 362e au classement ATP n'a rien pu faire face au Britannique Paul Jubb, classé 183e mondial. Maxime Chazal est tout de même engagé en double. Il jouera la nuit prochaine à minuit pour nous le premier tour aux côtés de l'Indien Azem Nao. On termine avec de la voile sur le territoire et la dernière semaine du trophée des jeunes marins organisé par le Cercle Nautique Calédonien. Les équipages vainqueurs des challenges de chaque province sont réunis à Nouméa depuis lundi et jusqu'à vendredi au centre d'activité nautique de la province sud à la Côte Blanche. Une belle expérience pour les jeunes navigateurs venus notamment des îles. 2 équipages ayant remporté le challenge aux loyautés, soit 8 participants venus à Nouméa pour cette ultime étape. On les écoute.
Je m'appelle Joyce et je viens de Lifou.
Je m'appelle Eve et je viens de Lifou.
Fou. Je m'appelle Loane et je viens de Marais.
En début de semaine, on fait des entraînements, on fait des manches, des régates pour s'entraîner pour vendredi.
Bah, en vrai, c'est une bonne expérience. Moi, c'est la première fois que je participe, mais c'est cool en vrai.
C'est quoi qui vous plaît dans la voile, vous ?
Moi, c'est le travail d'équipe avec... Les camarades, bah, c'est une passion aussi d'être en mer.
Être avec tout le monde, mais surtout aussi le fait de, d'avoir ce sentiment de liberté un peu. Et puis on est avec la nature.
Et être entre potes, pouvoir profiter, avoir de bonnes sensations sur l'eau.
Stéphane Poré, responsable du centre nautique Naipaul à Lifou. Déjà, c'est une belle découverte parce que ce type de bateau, nous, on en a à Lifou, mais ils sont en stand-by pour le moment, ils ne sont pas opérationnels pour le moment. Du coup, c'est une découverte sur un support qu'ils ne connaissent pas. C'est déjà intéressant de naviguer sur un bateau qu'on ne connaît pas, de le découvrir et puis d'essayer de performer avec. C'est vraiment un événement sur lequel les jeunes ils peuvent se rencontrer des trois provinces, échanger. Non, c'est vraiment un très très bel événement auquel on assiste tous les ans.
En vrai, ce serait bien si on pourrait gagner, mais le plus important, c'est de partager un moment de convivialité entre nous tous.
C'est une expérience quoi. Puis si on gagne, pire, c'est pas grave, on aura testé, on aura appris des choses. Et puis déjà de voir le niveau ici aussi, c'est pas pareil, ça se voit qu'ils ont aussi de l'expérience. Comme nous, c'est des bateaux qu'on découvre parce qu'on n'a jamais navigué sur ça à Lifou. Et puis on découvre les bateaux, on découvre le vent aussi ici, c'est pas le même. Et du coup, y a plus de sensations avec les bateaux.
Le trophée des jeunes marins qui se poursuit donc jusqu'à vendredi avec en plus des régates de nombreuses activités pour la jeunesse organisées à Nouméa. On leur souhaite bon vent pour la fin de compétition, 18h16, l'heure de voir la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous détaillez, Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Michael. Alors, cette nuit, des éclaircies reviendront sur l'extrême nord et l'ouest. Sur les autres régions, les nuages resteront nombreux et donneront des averses. L'alizé de sud-est mollira autour de 15 nœuds, voire encore 15 à 20 nœuds au Loyauté et sur la pointe nord. Sur l'ouest, il tombera rapidement entre 5 et 10 nœuds. Les températures de la nuit descendront légèrement, entre 18 et 22 degrés, et jusqu'à 15 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, l'ouest retrouvera de belles éclaircies. Ailleurs, de nombreux nuages circuleront et donneront par endroits des averses. Elles resteront plus fréquentes et plus marquées au Loyauté. Sur le nord-ouest, de faibles brises se lèveront. Ailleurs, l'alizé de sud-est sera voisin de 15 nœuds, Michael.
Merci beaucoup. C'est avec vous que se referment les pages de ce journal. Dans un instant, l'actualité nationale et dans le monde avec nos confrères d'Europe 1. Et puis à 18h30, l'interview d'Europe 1. Sonia Mabrouk reçoit ce soir la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Merci de votre fidélité. Prochain point avec la rédaction d'RRB à 19h. Belle soirée.